Jessica Vial.
La situation est toujours sous haute surveillance ce samedi dans le Lütschental après l'effondrement du glacier du Birch. La grande majorité des habitations du village valaisan de Blatten sont enfouies sous les éboulements ou noyées sous le lac qui s'est formé ces trois derniers jours. La vallée reste sous la menace d'une vague torrentielle. Elle pourrait se déclencher si le lac artificiel créé par la rivière Lonza en amont des éboulis venait à céder d'un coup. La catastrophe de Blatten qui engendrera plusieurs centaines de millions de francs de dommages, c'est la somme estimée hier par l'association suisse d'assurance, même si elle précise qu'il est encore trop tôt pour procéder à des estimations précises des dégâts. Le Valais vit depuis des années au rythme des catastrophes naturelles en raison notamment du changement climatique. Est-ce que cela pourrait rendre les assureurs plus réticents à assurer les biens à l'avenir? Vojislav Miličić, responsable du service des assurances chez VZ.
Ça pourrait, surtout quand il s'agit d'assurance facultative en Valais. Hein, la chance d'avoir un établissement cantonal comme sur Vaud où les assurances sont obligatoires, l'assureur ne peut pas dire oui je vous prends ou non je vous prends pas parce que vous avez trop de risques pour moi. Dans les Valais, si on continue d'avoir ce système avec des assureurs privés, on sera sujet de plus en plus à cette question dans le futur.
C'était hier dans l'émission Forum. Autre danger en montagne, le risque de couler de neige. 11 personnes ont perdu la vie en Suisse dans les avalanches durant le seul mois de mai qui se termine. C'est 12 fois plus que la moyenne des 20 dernières années. Les conditions particulières de neige en altitude expliquent ce chiffre. Face à ce constat, ne faudrait-il pas prolonger la publication quotidienne des bulletins d'avalanches qui s'arrêtent fin avril? La réponse de Pierre Huguenin de l'Institut Suisse pour l'étude de la neige et des avalanches.
On peut pas faire des bulletins d'avalanche sans avoir d'informations. Ce serait un peu de la cartomancie. On est obligé d'avoir une information relativement scientifique et avérée pour faire ces bulletins. Un réseau d'observateurs très actifs, des hommes et des femmes qui font des observations de neige, d'avalanche dans leur région. À partir de la fin du mois d'avril, en général, on a moins de retours du terrain. Ce qui fait qu'on a de la peine à avoir les bases pour faire un bulletin d'avalanche qui continue.
Pierre Huguenin répondait à Diana Alice Ramsauer. Dans le canton de Genève, le Conseil d'État a nommé hier une administration provisoire à Vernier. La commune vit sans autorité politique car les résultats des dernières élections sont contestés devant la justice. En cause des soupçons de fraude électorale, le scrutin du 23 mars dernier n'a donc pas été validé. Les trois conseillers administratifs sortants, Gianretto Agramont, Mathias Buschbeck et Martin Staub, vont donc gérer la commune temporairement. Emmanuel Macron hausse le ton contre Israël à propos de la situation à Gaza. Le président français a appelé hier les pays européens à durcir leur position contre l'État hébreu si celui-ci ne desserre pas son étau sur la bande de Gaza. Ces propos ont provoqué la colère du gouvernement israélien. Le ministère des Affaires étrangères a accusé le président français d'être en croisade contre l'État juif. La Cour suprême des États-Unis donne son feu vert à l'administration Trump pour renvoyer plus de 500 000 migrants au bénéfice d'un statut de protection humanitaire. Jordan Davis, la Maison-Blanche veut annuler un programme établi sous la présidence de Joe Biden.
L'administration Biden avait accordé la parole humanitaire à plus d'un demi-million de ressortissants de pays en crise comme le Nicaragua, le Venezuela, Cuba et Haïti. Ce statut permettait à ces migrants de rejoindre des membres de la famille ou d'autres proches et d'arriver par des voies régulières sur le sol américain. Mais l'administration Trump cherche de nouvelles catégories d'immigrés à renvoyer alors qu'elle peine à atteindre ses objectifs en matière d'expulsion. Et elle a saisi la Cour suprême, même si le fond de l'affaire était toujours contesté devant les instances inférieures. La majorité de la haute cour n'a pas donné d'opinion écrite pour expliquer leur intervention, mais son action peut être interprétée comme le signe qu'elle pense que l'administration est dans son bon droit de procéder à la plus vaste dérégularisation d'immigrés de l'ère moderne aux États-Unis. Jordan Davis, RTS, Washington.
Le Royaume-Uni bannit les cigarettes électroniques jetables. L'interdiction entre en vigueur ce dimanche. La Belgique et la France prohibent déjà la commercialisation de ces produits, aussi connus sous le nom de puffs. Des cigarettes accusées de favoriser l'addiction à la nicotine chez les plus jeunes et de nuire à l'environnement. En Suisse, le Parlement discute aussi d'une telle interdiction. Plusieurs cantons ont déjà pris les devants, comme le Jura ou le Valais. Le pape Léon XIV a renouvelé hier sa carte d'identité péruvienne, une formalité pour laquelle des fonctionnaires péruviens ont été dépêchés tout spécialement au Vatican, selon le service d'état civil à Lima. Robert Francis Prévol est américain, né à Chicago, mais il a acquis la nationalité péruvienne en 2015 alors qu'il était évêque de Chiclayo dans le nord du Pérou. En football, les Suisses affrontaient hier la France à Nancy lors d'un match de la Ligue des Nations. Elles ont été battues 4-0, les Suisses qui sont actuellement dernières de leur groupe, juste avant la dernière journée de compétition. Et puis football encore ce soir avec la finale de la Ligue des Champions à l'affiche Paris Saint-Germain-Inter de Milan. La rencontre se tiendra à Munich avec le gardien suisse Yann Sommer dans les buts côté italien. Ce match débute à 21h, il est à suivre en direct sur RTS Première dans une émission spéciale dès 20h30 et en images sur RTS2. Le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui avec par moments des voiles de nuages en altitude et quelques averses ou orages isolés sur le Jura et les Préalpes, 28 à 30 degrés au maximum. Du soleil dimanche également en plaine et en Valais, temps un peu plus couvert sur le Jura et le long des Préalpes. Quelques averses et des orages localement forts sont à prévoir en cours d'après-midi, d'abord sur le relief puis également sur les régions de plaine et des températures entre 17 et 28 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
La météo avec VZ, le conseiller financier pour votre retraite et vos placements, vzch.com.
Voix cristalline ou puissante, voix qui caresse ou qui transperce. Du 4 au 19 juillet au Montreux Jazz Festival, laissez-vous séduire par les plus grandes voix d'artistes légendaires. Parmi les têtes d'affiche, Pulp, Ray, Lionel Richie, Iseult, ou encore Neil Young and the Chrome Hearts. Plus d'informations sur montrejazzfestival.com. Retrouvez le festival dans Le Grand Soir, du lundi au jeudi dès 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
RTS Première, 6h-9h le samedi, Karine Vasarino.
Avec Samuel Morier-Genoux qui est en régie aujourd'hui pour assurer la réalisation technique de cette matinale. Audrey Zano est notre attachée de production et Stéphanie Jovanovic a choisi les musiques. L'équipe de cette troisième heure d'émission nous a rejoint aussi. Sandra Timmerli, Mélanie Chapuis, Anouche Setaghia, Christophe Schenk et Benoît Cornu. Bonjour.
Bonjour Karine.
Sandra, dans la presse romande et alémanique, des images de la vallée du Lochental.
Toujours aussi fortes, je crois qu'on s'y fait pas. Elles sont vraiment impressionnantes. En tant qu'un nouveau visage aujourd'hui quand même, puisque Karine Keller-Souter était sur place hier, on la voit.
Votre revue de presse tout à l'heure. Benoît Cornu, l'invité média, nous invite à un festival.
Oui, je reçois Pauline Rumpf, journaliste qui travaille à 20 minutes, mais aussi au sein du comité d'organisation du premier Prestival, lequel s'empare du stade de la Gourtzellen à Bienne le samedi prochain. L'événement, il se veut festif et rassembleur, soit un peu le contraire de l'ambiance des salles de rédaction ces dernières années.
Ça dépend. Alors juste après vous, dans Pixel, on parlera cybersécurité, mots de passe qui sont en train de disparaître. Et on terminera en beauté avec la proposition de sortie de Mélanie Chapuis. Alors on fait quoi ce week-end, Mélanie ?
Alors on va courageusement faire face aux défis climatiques, hein, actuellement glaciers ou moustiques-tigres. Si on accompagnait la nature, si on s'adaptait à son évolution plutôt que l'ignorer ou chercher à la contraindre, je me trouve devant le pavillon Sikili à Genève. C'est un bâtiment qui ressemble à une sorte d'ovni assez plat, où il ressemble aussi à une feuille qui serait en train de se poser délicatement sur le sol. Mais surtout, le pavillon abrite une passionnante exposition. Elle est intitulée « Devenir jardinier planétaire ». Même en cultivant très localement nos jardins et en aménageant nos villes, on peut garder espoir. On en parle tout à l'heure avec l'architecte Nina Guyot.
À tout à l'heure, Mélanie Chapuis. À tout à l'heure. À 8h45. Mais là, tout de suite, Swiss Good.
Swiss Good, les nouvelles qui font du bien.
Swiss Good, avec vous, Christophe Schenk, bonjour.
Bonjour Karine.
Vous nous parlez de trois infos locales et inspirantes, tirées des émissions de la RTS. Alors, vous commencez avec une question ce matin.
Eh oui, une question. Est-ce que vous connaissez Aloïs Korba ?
Oui. C'est une artiste.
C'est ça, elle fait partie de la vingtaine de femmes mises à l'honneur par la ville de Lausanne, qui a renommé plusieurs de ses places ou de ses parcs des noms de ses héroïnes. Et la ville propose même désormais une balade autour de cette thématique baptisée « Des héroïnes au coin de ma rue ». L'émission Couleur Locale a suivi une guide à travers la capitale vaudoise.
Cette place s'appelait avant la rue Près du Marché. Elle a été rebaptisée Place Aloïs Korba en septembre 2022. C'est une des premières femmes à avoir été exposée au Musée de l'Art Brut, qui a été ouvert en 1978 par Jean Dubuffet. Et aujourd'hui encore, on peut voir ses œuvres.
Alors à moyen terme, la ville de Lausanne espère passer à 30 femmes dont les noms orneront des plaquettes de rue, de parc ou de place. À titre de comparaison quand même, les hommes se partagent aujourd'hui une centaine de lieux à leur nom dans la ville, donc il y a encore de la marge. Mais il y a quand même beaucoup de femmes à honorer, comme par exemple Lucienne Schnegg. Vous vous rappelez d'elle ?
Pas forcément, non.
Alors Lucienne Schnegg, on l'appelait aussi la petite dame du Capitole dans le film de Jacqueline Veuve qui lui avait été consacré. Et elle a désormais un petit parc en son nom, juste en face de la salle de cinéma.
Nous sommes juste en face du cinéma Capitole à la promenade Lucienne Schnegg, qui a été baptisée avec ce nom en honneur de Lucienne Schnegg qui s'est battue toute sa vie pour que ce cinéma reste le sien.
Je l'ai adoptée tout de suite. C'est un coup de foudre en fait. Hein?
À la fin de sa vie, elle a vendu ce cinéma à la ville de Lausanne, qui est aujourd'hui devenue la Cinémathèque suisse.
Alors on quitte Lausanne pour les Grisons, dans le petit village de Mullens, dont on nous parlait juste avant, qui a inauguré...
David Spindler, notre correspondant dans les Grisons.
Et il a inauguré donc il y a quelques jours cette tour de 30 mètres de haut, qui a la particularité d'être le plus grand édifice au monde, totalement imprimé grâce à des imprimantes 3D. Et si vous vous demandez comment on fait ça, eh bien on écoute le reportage du 1930.
Sous cette toile d'argent qui s'est envolée ce matin... Un bijou architectural. Il a pour écrin le petit village grison de Mullens et se dévoile sous le regard ébahi de son orfèvre. C'est encore plus beau que ce que vous pensiez, non ? Ça me rend heureux. Heureux de découvrir la plus haute tour du monde, imprimée en 3D. Une innovation sortie des cerveaux de l'EPFZ, du béton, 30 mètres de béton imprimé par deux robots, puis des éléments assemblés, un puzzle géant en trois dimensions. Il faut se représenter que dans chaque couche de béton, il y a un filament de métal et les robots empilent ces strates une à une. La tour blanche, Tor Alva en romanche, commémore l'émigration des pâtissiers grisons vers l'Italie au XVIIIe siècle, des volutes de chantilly pour raconter l'histoire. Je trouve ça excitant de prendre un thème très sérieux comme la migration et de le raconter sous une autre forme.
Et si le béton et l'impression 3D, c'est pas votre tasse de thé, on peut aussi opter pour des murs en champignons.
En champignons, vraiment ?
Eh oui, parce que plus précisément, c'est du mycélium, le réseau de filaments souterrains que développent les champignons. Dans la série The Last of Us, c'est ce qui permet de prendre le contrôle des êtres humains et en faire des zombies, ce mycélium. Dans la réalité, en Suisse, les architectes préfèrent imaginer qu'on pourrait en faire des matériaux de construction pour les édifices de demain, comme a pu le découvrir Sophie Iselin dans le 1930.
Un bâtiment qui pousse tout seul, des murs qui se nourrissent de paille et de mer de café... et une empreinte écologique quasi nulle. Voici les avantages du mycélium, matériau fabriqué à partir des racines de champignons qui intéresse beaucoup le secteur de la construction et surtout la nouvelle génération.
Comme architecte, il faut travailler avec les crises actuelles. Quand on sait que le secteur du bâtiment, c'est quoi, un tiers des émissions de gaz à effet de serre mondiales, c'est énorme. Alors c'est pas uniquement... la question des matériaux de construction. Il y a encore aussi la vie du bâtiment, son usage et sa démolition. Mais la grande partie, c'est quand même les matériaux de construction.
6 mois, c'est le temps qu'il a fallu pour faire pousser ce prototype exposé aujourd'hui au musée de la Main.
6 mois pour ça ?
Ouais, quand même.
Waouh,
ouais.
Ok.
Le pleurote, là, en l'occurrence, il arrive à casser le moule pour sortir. C'est vraiment le pleurote qui décide.
Alors pour l'instant, le mycélium n'est pas encore utilisé à large échelle, mais il séduit à travers le monde, même la NASA, qui songe à l'utiliser pour les futurs habitats lunaires.
Merci Christophe Schenk pour toutes ces infos. Votre newsletter, c'est sur l'adresse suivante, rts.ch/swissgood.
Exactement.
Et pour la musique.
Et pour la musique, je me suis dit, est-ce que je connais des chansons sautillantes avec des champignons ? Et oui,
ça.
Je me suis rappelé de Billy the Kick et les gamins en folie et leur chanson Mangez-moi, mangez-moi. Une autre sorte de champignon, mais ce petit rythme de reggae, ça peut faire du bien.
Ouais,
le
ça
matin.
Va nous faire du bien ce samedi matin. Merci Christophe Schenk, à la
Merci
semaine prochaine.
Merci Karine, au revoir.
Faut laisser couler. Puis... suffisamment acide, c'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, 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 mangez-moi.
avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Il pleuvait beaucoup ce jour-là.
Heureusement, on avait des capuches
et surtout des poches insolites. Là-bas, les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette.
Mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Est-ce que c'est un bon? Mais non, c'est pas un bon, car y a pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur. Ne nous décourageons pas, ouvrons les oreilles et
mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Oh, toi tu marches comme un canard, mais c'est pour mieux le voir. Oh putain, j'ai mal au dos, il faudrait un détecteur. Et sûrement qu'ils ont tout raflé. Ce coin-là, c'est sûr, il est connu. Putain, franchement, comment veux-tu? Maintenant, il est trop tard. On est bien avancé, on a les pieds tout mouillés.
Mangez-moi.
Plutôt que de m'écraser, pourquoi ne pas me manger?
Alors on est parti à la cambrousse. Le champ était humide et suffisamment facile. C'était le bon moment pour aller cueillir les champignons. Mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception.
Mangez-moi. Billy the Kick, mangez-moi, 8h18. Voilà, c'était un jingle. Voilà.
Un essai de jingle.
On essaie de le remettre ou pas? Non. Samuel Morier-Genoux. Alors, jingle.
J'ai acheté le journal.
Bravo. Eh ben, ça vous laisse le temps de prendre les journaux et peut-être même un petit café.
Oui, t'as pas oublié de compter le journal?
Quel journal?
C'est le jingle de la revue de presse, Sandra Timmerly. Un constat ce matin dans la presse. Blatten continue de faire la une de tous les journaux. Ou presque.
On lit avec un nouveau visage quand même ce matin, c'est Karine Keller sous terre, puisque la présidente de la Confédération était sur place hier dans le Lötschental. Alors elle est en tête, en grand, en tête du Blick. Je vous montre la photo, elle est assez impressionnante. On la voit donc dans l'hélicoptère, hélicoptère de l'armée, avec le casque sur les oreilles, comme ça, en train de regarder ce qui reste du village de Blatten. Enfin, ce qui reste, rien, hein. Un amas de gravats, de boue, de glace, de terre. Existe Niederschmettern, donc c'est renversant vraiment, ça vous jette à terre, dit-elle. Une photo similaire, quasi la même, de Karine Keller sous terre en une de la Schweiz am Wochenende de 24 heures, aussi dans l'hélicoptère, mais là, elle a les mains jointes, un peu comme à l'église. Légende, Karine Keller sous terre est allée à Blatten pour dire aux habitants qu'ils ne sont pas seuls, ihr seid nicht allein. Et puis, là, la situation là, maintenant, sur le terrain, les nouvelles se veulent rassurantes, écrit pour sa part le Nouvelliste. L'eau trouve un chemin vers la Lonza, titre le journal, avec une photo de l'eau qui serpente comme ça à travers les gravats. Le scénario de lave torrentielle déballant la vallée semble de moins en moins probable. Et le même ton en une du Tagesanzeiger, du Bund et de la Basler Zeitung. La Lonza s'écoule lentement. Le commandement est optimiste.
Et l'heure est aussi aux questions. Elles sont nombreuses.
Quel dédommagement pour les habitants de Blatten, une question en tête de la liberté. Le Valais ne dispose pas d'un système d'assurance publique pour les bâtiments face aux dangers naturels. Les habitants doivent donc souscrire volontairement une assurance privée, ce que tout le monde n'a pas fait. D'ailleurs, à Berne, une initiative parlementaire, elle a été déposée par Fabio Regazzi, conseiller aux États centristes, veut créer un fonds national pour de telles catastrophes, rapporte Le Temps. La question n'est plus de savoir si ce type d'événement va se répéter, mais quand, estime le Tessinois. Mais en attendant, le gros titre, si j'ose dire, du temps, c'est cette phrase. Alors, elle a l'air de rien comme ça, hein, mais en fait, elle sonne assez terrible. C'est la citation d'un habitant de 82 ans. On a le sentiment que c'est sans fin. Donc, et la reconstruction, et la chute des cailloux, des rochers, de la montagne. Et en dessous, justement, ce dessin de Chapatte, Benoît le regarde déjà. En général, c'est Didier qui le décrit, mais je suis sûre, Benoît, que vous faites ça très, très bien
Benoît
aussi.
Benoît Cornu, vous les décrivez.
Ouais, exactement. Donc, je vous aide. On voit un berger avec la tête, en fait, d'un masque du Lochental. Je ne sais pas si vous les voyez, vous les imaginez, ces masques. Ils font très peur. Ils sont terrifiants, hein. Il est seul sur ce tas de gravats. Et
c'est
sur son torse.
Ou c'est moi qui l'ai
dit ? Ah oui, pardon, j'avais dit que c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'il a sur son torse ?
Bah, effectivement, sur son torse, il y a un panneau avec inscrit dessus « Réchauffement global ».
Voilà, alors si seulement ça pouvait chasser les mauvais esprits, hein, comme le font, paraît-il, ou certains le disent en tout cas, les masques du Lochental.
Et ce constat qui fait l'unanimité, il faudra beaucoup d'argent pour rebâtir.
Oui, tous les journaux en parlent, qui va payer ? Alors, l'État intervient pour les cas de rigueur, et une fois que toutes les autres options ont été actionnées, explique Damien Locher dans le Nouvelliste, il est le responsable de la cellule finance de l'organe cantonal de conduite. Le Conseil fédéral est à vos côtés, a promis aussi Karine Keller-Souter aux habitants, rappelle Le Temps. La Confédération s'engagera financièrement, mais je ne peux pas encore dire sous quelle forme exactement, ajoute la Saint-Galloise. Alors, dans l'immédiat, cette aide-là, elle est là, elle est bien réelle, c'est là. Solidarité. Cet appartement est mon refuge, il doit aussi l'être pour d'autres, explique Ruth, une sexagénaire dans le Blic. Elle met son appartement de vacances, acheté, à disposition des habitants de Blatten qui ont perdu leur toit. Il y a en ce moment bien plus important que des vacances, ajoute Ruth. Alors c'est un exemple de solidarité parmi beaucoup d'autres.
Et dans la presse, un autre événement aussi, d'un tout autre genre, la catastrophe nucléaire de Lucent. Évité de justesse, c'était quand ça ?
21 janvier 1969, à la centrale nucléaire expérimentale de Lucent dans le canton de Vaud. La Suisse voulait tester, si j'ose dire, ses ambitions nucléaires. Il est 17h20 lorsque la barre de combustible à base d'uranium numéro 59, dont l'enveloppe de magnésium a fondu, entraîne une succession de petites explosions. La centrale est arrêtée d'urgence, en cause la fuite de gaz fortement radioactif. Alors, sur le moment, les autorités fédérales parlent d'un simple incident, rappelle Le Temps, mais en 2009, Moritz Leuenberger, alors ministre de l'énergie, le reconnaît. La dimension réelle de la panne a été dissimulée et évacuée. Aujourd'hui, l'événement de Lucent est classé 4 sur 7, quand même, sur l'échelle internationale de gravité des accidents nucléaires. Le 7, c'est quand même Tchernobyl, je le rappelle. Alors, pourquoi en parler aujourd'hui ? C'est que les archives cantonales vaudoises se sont lancées dans une collecte de témoignages. Elles seront publiées le 10 juin au cours d'un événement, on peut l'appeler comme ça, au Palais de Rumine, à Lausanne. Alors, et qu'y a-t-il ? C'est autre chose, mais qu'y a-t-il aujourd'hui dans ces entrailles de cette installation à Lucent ? Vous avez une idée ? Eh bien, en fait, c'est devenu le dépôt des biens culturels du canton. Ah, donc, d'accord. On y trouve des fléchettes, des fusils, des sabres, des squelettes. D'où donc cette légende de l'atome aux fantômes.
Et une autre nouvelle atomique tout à fait actuelle.
Oui, vous le savions peut-être pas forcément. Les centrales helvétiques conservent plus de 900 tonnes d'uranium en Europe et aux États-Unis. Alors, pourquoi pas ici en Suisse, me direz-vous ? Peut-être trop cher, pas assez de place. Trop dangereux, allez savoir. Eh bien, pas du tout. La Suisse n'est pas un pays producteur, explique en tout cas l'Office fédéral de l'énergie dans la tribune des 24 heures. L'uranium est initialement stocké là où il est produit.
Et on revient au sabre, mais pas à Lucent.
À Neuchâtel, cette fois, où plusieurs associations et groupes pratiquent le combat à l'épée lors de tournois, mais aussi d'autres activités médiévales, rapporte Arc Info. Parti donc en reportage, leur passion, redonner vie au Moyen-Âge. Et puis allez, c'est peut-être une autre passion, peut-être la vôtre. Benoît, vous avez l'air intéressé. Allez à la plage, mais attention, pas n'importe comment. En bus, c'est l'avenir, estime l'éditorialiste de la Tribune de Genève. Alors, vous allez me dire, un édito pour un bus,
Oui.
Voilà.
Expliquez-nous.
Mais voilà, c'est que dès demain et jusqu'au 28 septembre, les transports publics genevois lancent la ligne des plages, on se croirait presque au sud, hein. Et les études le montrent, les genevois prennent de plus en plus le bus pour leurs loisirs. Eh bien oui, en général, proche du lac. Les loisirs, donc. Et c'est sûr aussi, l'union fait la force, la jeunesse aussi. C'est le titre de la Gruyère, comme cette fanfare, pas tout à fait comme les autres. Ça nous change un peu, non ?
Oui, c'est bien.
Et voilà. Donc la moyenne d'âge de cette fanfare, 30 ans.
Ah.
C'est l'union paroissiale de Sales lors du Grusique, ils m'excuseront dans la Gruyère. Hein. C'est la 24e fête cantonale de musique à Bulle. Et pour beaucoup de ces jeunes, le concours de jeudi, c'était une première, donc beaucoup de stress.
Et on écoute encore un peu de musique de cette fanfare.
Ça nous change. C'est peut-être pas ce qu'ils ont écrit à Bulle, je le précise quand même, ils m'excuseront.
Ambiance kiosque à musique, c'est à 11h, précisons-le tout à l'heure. Un petit clin d'œil à Jean-Marc Richard, c'était la revue de presse.
L'invité média.
Avec vous, Benoît Cornu.
Oui, l'invité média aujourd'hui, elle s'appelle Pauline Roumpf et elle est représentante d'un certain collectif. Pauline Roumpf, vous êtes journaliste à 20 minutes et membre du comité d'organisation du Prestival, dont la première édition prend place samedi prochain au stade de la Gourtzellen à Bienne. L'idée, en quelques mots, célébrer le journalisme plutôt que l'enterrer, à une époque où on compte davantage de licenciements que de création de postes, et rassembler une profession, ça veut dire que le journaliste roman, il est désuni aujourd'hui, Pauline Roumpf ?
Bonjour déjà. Je ne sais pas s'il est désuni, mais il est assez isolé. Ouais, je pense que les rédactions travaillent chacune de leur côté. Les journalistes ont assez peu d'occasions de se rencontrer et puis de parler de leur travail entre eux. On est souvent assez solitaire, hein, tout seul derrière un micro un matin pour une matinale quand on préfère son flash, ou bien nous quand on est aujourd'hui, je suis en permanence à 20 minutes, donc je vais passer toute la journée toute seule. Il y a des questions qu'on est seul pour se poser, et du coup je pense que c'est une chouette occasion qui manque d'avoir ces discussions collectivement pour les grandes questions qu'on se pose chacun de notre côté. Ouais.
Et donc c'est de ce constat-là qu'est partie l'idée de créer le Prestival.
C'est ça. L'aspect désuni un petit peu, et puis aussi parce que c'est une période morose pour la presse, pour les journalistes en général. On a parlé de ces licenciements, c'est vrai que il n'y a pas une rédaction où je suis passée depuis les quelques années où je travaille dans ce milieu, où il n'y a pas eu une vague de licenciements quand j'y étais. On se dit, est-ce qu'on est maudit ? Non, je crois que c'est juste le milieu qui est en profonde transformation. On se sent parfois tout petit face à ça, et du coup l'idée c'était aussi de se rassembler. On s'est rendu compte qu'on était tous un petit peu en besoin d'avoir un peu quelque chose, un souffle un peu positif, pour nous redonner un élan en fait. Donc, dans cette profession.
L'idée c'est se rassurer, c'est ça ? Se convaincre que ça va ?
L'idée c'est pas de se mentir, je crois. Non, c'est plus de se redonner du courage les uns aux autres, de se retrouver tous ensemble, parce qu'on a encore beaucoup de défis auxquels il faut faire face. Et on se sent effectivement parfois un peu seul, un peu désabusé, on subit beaucoup, et donc je crois que c'est plutôt l'idée de se remotiver parmi, de redonner un petit peu de positif, et puis de peut-être donner la place à des nouvelles choses, à des nouveaux projets, à des nouvelles synergies au sein de la profession.
Et donc, dites-nous, à une semaine de l'événement, donc ce festival, quelle couleur il va avoir ? On voit votre programme, hein, vous avez devant vous, avec une pléiade d'intervenants, je le vois d'ici. Vous pouvez dire en quelques mots à quoi va ressembler cet événement qui est dans le stade de la Gourtzellen, à Bienne, je le rappelle, un stade en friche.
C'est ça, comme le journalisme, c'est un peu le clin d'œil. Effectivement, la programmation est foisonnante. C'est justement grâce à ce lieu qui nous accueille, la Gourtzellen, qui est ce stade qui a déjà plein de lieux qui existent par lui-même. Il y a par exemple un studio de radio associatif à l'intérieur des gradins qui nous accueille pour une scène podcast. Les gradins vont aussi accueillir des conférences. Le lieu est tout trouvé pour ça. Il y aura de la photo de presse, il y aura du dessin de presse. On va monter des infrastructures pour accueillir des stands, des débats. Il y a des rencontres qui sont prévues entre le public et les journalistes aussi. L'idée, c'est vraiment de... il y a tellement de questions, il y a tellement de gens aussi maintenant qui proposent des choses ou qui ont envie d'intervenir. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir un panel le plus large possible, que ce soit aux professionnels ou au grand public, pour aborder le plus de questions possible. Évidemment qu'on peut pas toutes les couvrir, on a quelques frustrations aussi, mais voilà, l'idée, c'est il y en aura normalement à peu près pour tout le monde.
Et les patrons de presse, ils sont invités aussi?
Évidemment, tout le monde est invité.
Ils seront là, présents.
Peut-être certains.
Sûr, hein.
Pas sûr, mais enfin, l'idée, c'est vraiment que la rencontre, elle soit le plus large possible. Après, c'est vraiment une organisation qui part, entre guillemets, de la base. On est tous bénévoles, on est vraiment issus de toutes les rédactions. Et le but, c'est pas non plus d'avoir des grands titres qui sponsorisent une scène et puis qui viennent amener leur ligne éditoriale. C'est vraiment quelque chose qui est parti d'un collectif et des journalistes. Et d'ailleurs, cette programmation, elle a été faite par plus de 20 personnes. Donc c'est vraiment l'idée aussi que ce soit les journalistes qui se posent des questions et qui ont envie de pouvoir y répondre ensemble et pas directement les rédactions elles-mêmes. Ça existe d'ailleurs déjà.
Je voyais ma collègue Sandra Timmerly.
Non, je me demandais juste, mais pourquoi l'appeler festival? Vous avez dit, c'est l'occasion de se retrouver, on a besoin de partager. Vous faites pas vraiment rêver avec. comment attirer le public et donner envie au fait? Parce que ouais, pourquoi appeler festival? Je sais pas.
Bon, ça, pour nous, c'est la structure d'un festival, factuellement, avec plein de scènes. Il y a également, il y a un spectacle qui aura lieu en fin de journée avec un jeune journaliste de Blic qui vient présenter sous forme théâtrale. On a aussi un faux procès qui va prendre place pour parler un petit peu de ces procédures qui visent à museler la presse. Mais disons, alors on a essayé de faire envie. J'espère qu'on y arrive quand même un petit peu. Mais je pense au niveau du public, il y a aussi, on constate quand même une certaine déconnexion entre les journalistes et puis les lecteurs, les spectateurs, les auditeurs et même ceux qui s'en sont un peu désintéressés. Et pour nous, c'est aussi vraiment une porte ouverte pour que les gens puissent venir, vraiment tout un chacun, entrer en connexion avec ce monde, mais aussi avoir des portes d'entrée pour poser des questions, amener des critiques. Il y aura des boîtes à suggestions pour proposer son propre sujet. Il y aura un speed dating où le public peut rencontrer des journalistes, que ce soit pour en savoir plus ou pour critiquer, pour amener des points de vue peut-être un peu différents sur la manière des journalistes de faire leur travail. Donc, je pense que le nombre de portes ouvertes est quand même massif. Et puis, les questions que se posent les gens de manière générale, elles auront vraiment leur place. On parlait récemment de la table ronde qui va se tenir sur le traitement médiatique de Gaza, par exemple. C'est un de ces... Il y en a plusieurs contenus qui se posent ces questions-là. Et ça, c'est, il me semble, un sujet sur lequel tout le monde aujourd'hui a un avis et tout le monde parfois a un avis aussi critique par rapport à la façon des médias de traiter ce sujet. Donc on espère que ça puisse quand même aussi faire envie.
Oui. Convaincu.
Tant mieux.
Une critique, le mot, vous l'avez lâché trois fois. Oui, je compte à chaque fois, je fais des coches. Dans votre dernière intervention, justement, sans que vous proposiez des solutions toutes faites, hein, je crois que c'est vraiment pas l'idée d'ailleurs de cette première édition, les critiques que vous pouvez dresser face au journalisme actuel, il y en a certainement certaines.
Oui, je suis pas sûre que ce soit à moi de les amener forcément. Je pense que il y a beaucoup de choses à améliorer, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de questions qu'on gagnerait à creuser, peut-être avec plus de gens, justement en écoutant peut-être plus le public aussi. Je suis pas sûre que ce soit forcément à moi de poser ces critiques-là, mais je pense que c'est sûr que dans chaque rédaction, avec notamment la diminution des ressources qu'on connaît, on doit toujours travailler de plus en plus vite avec toujours moins de ressources et du coup évidemment on peut jamais faire un travail qui est aussi bien que ce qu'on aimerait et donc il y a forcément toujours des choses qui sont à améliorer et puis on le constate aussi dans mine de rien la diminution des audiences dans pas mal de journaux de radio de télévision. Ça dit quelque chose, c'est un signal aussi et on doit l'écouter et chercher des pistes pour y répondre.
Mmh. Ouais, les médias traditionnels aujourd'hui, on voit, hein, ont de la peine à se réinventer ou en tout cas à gagner ce nouveau public. À l'inverse, vous avez les influenceurs, les vidéos à la demande, les producteurs de contenu. Est-ce que c'est plutôt à nous de nous adapter? Vous êtes la représentante d'une génération plutôt jeune à l'image de ce festival. Est-ce qu'on doit aller dans cette direction qui est relativement récente?
Je pense qu'il faut trouver des pistes pour suivre cette évolution, c'est sûr. Il faut pas non plus, je pense, tout changer. Les médias ont quand même des processus de travail avec des chartes déontologiques qui sont essentielles pour garder la confiance aussi des journalistes à une heure où il y a tellement d'informations disponibles un peu partout. Par contre, il faut à mon avis s'adapter sur les formes, c'est sûr. On a d'ailleurs une table ronde, plutôt un espace, une discussion ouverte au village, l'espace des stands, qui est destiné aux créateurs de contenu, qui est consacré aux créateur de contenu destiné à tout le monde, évidemment. Oui, je pense qu'il faut évoluer. On sait aussi qu'une grande majorité des jeunes aujourd'hui s'informent majoritairement, voire uniquement sur les réseaux sociaux. Donc il faut continuer à aller chercher ces gens-là. C'est vrai que nous, en tant que journalistes, c'est pas forcément notre compétence principale, le format et la distribution des contenus. Mais en fait, il y a pas le choix. Il faut vivre avec son temps et trouver des solutions.
À une semaine, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans 7 jours, hein, je veux pas vous stresser, mais le 7 juin.
Le stress est là, oui, le stress est là.
Comment on se situe? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse inconnue, sans parler de Woodstock, on est quand même dans une inconnue par rapport au public, on sait pas exactement ce qui nous attend, c'est ça?
C'est ça, on peut que espérer, mais c'est vrai que c'est une des questions que beaucoup de gens nous posent, que ce soit les gens qui vont venir avec des food trucks, ou que ce soit les autorités qui vont prendre la parole, les autorités de Bienne, il y a la maire de Bienne qui sera avec nous, enfin voilà, c'est une question qui est toujours ouverte et à laquelle on n'a pas de réponse. On peut que espérer que à la fois il fasse beau parce que les gens auront envie peut-être de se déplacer, ou à la fois s'il pleut, tout est couvert, donc ce sera aussi un très bon endroit où être. Mais c'est vrai que c'est une inconnue, et c'est une inconnue qui a beaucoup d'ampleur, parce que en fait si ça prend pas, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres manières de renouer ce dialogue là et ce sera peut-être pas nous de le faire.
Mais c'était voulu, ça, qu'il n'y ait pas d'inscription au préalable?
On s'est beaucoup posé la question. On est tous bénévoles, donc on fait aussi dans l'ampleur de nos ressources à nous. On voulait pas non plus que les gens se sentent contraints. Je me suis inscrit en février, il faut absolument que j'y aille. Organisationnellement, c'était finalement un chiffre qui peut-être serait pas fiable parce que les gens finalement se désistent, ou alors s'inscrivent pas et viennent quand même. Donc on a préféré. Et puis la Courtelane est un lieu qui est ouvert aussi au public toute l'année, toute la journée, même quand il y a des événements. Donc il y aura aussi d'autres gens qui seront présents. Il y a un tournoi de tennis à un autre bout du stade. Il y a un skatepark avec des familles qui viennent. C'est un samedi à Pentecôte. C'est sûr qu'il y aura plein d'autres gens. Donc on voulait pas non plus un événement qui est fermé. Donc on est un peu dans ce côté très ouvert et on verra, ce sera de l'improvisation, mais les infrastructures seront là et normalement ça devrait tourner.
De beaux échanges alors, du tennis et du journalisme,
c'est
si
ça.
Vous me permettez. Et j'ai cru comprendre quand même, au-delà de l'aspect public, il y a le côté rassembler la profession qui est un objectif pour vous déjà atteint, donc il n'y aurait même pas besoin de l'organiser, ce festival.
Bon, il fallait l'organiser pour avancer vers cet objectif. Et puis, évidemment, il n'est pas encore atteint. Évidemment, on sent que dans l'association, au niveau de l'organisation, et puis même les rédactions ou les différentes organisations qui nous approchent, on sent qu'il y a déjà un élan, on sent qu'il y a déjà des échanges, et ça, c'est vraiment hyper enthousiasmant. Évidemment que maintenant, il faut que toute cette organisation-là, elle arrive jusqu'au public, et que ces discussions puissent avoir lieu. On s'est posé les questions pour organiser les tables rondes, les conférences, etc. Maintenant, il faut que ces discussions, elles aient lieu. Donc, évidemment qu'il y a encore une étape importante à franchir.
Mais est-ce que, justement, vous sentez cette solidarité dans la profession? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les licenciements, les restructurations, il n'y a pas aussi une compétition qui s'installe entre les rédactions et donc entre les journalistes? Vous venez de médias différents et vous sentez vraiment une solidarité?
Franchement, oui. Franchement, oui, vraiment. C'est peut-être aussi quelque chose qui est lié à la génération de la plupart des gens qui sont dans l'organisation. Je peux pas parler non plus pour l'entier du paysage médiatique, évidemment. Ça existe aussi, la compétition. Mais en fait, on s'est aussi tous et toutes lancés dans ce métier par passion, et puis peut-être par valeur aussi. Et puis ça, je pense qu'on se rend compte qu'on n'a plus vraiment le choix, et que à ce stade, si on se tire dans les pattes, personne ne va nulle part, en fait. Donc oui, on la constate vraiment. Et justement, l'association qui organise est vraiment remplie de journalistes qui viennent de partout, de toutes les rédactions romandes. Enfin, pas de toutes, mais en tout cas, d'une diversité vraiment assez large. Et du coup, je pense que c'est aussi un besoin, en fait, de passer au-delà d'éventuels conflits personnels et juste de tous tirer à la même corde, quoi.
Donc ce n'est pas qu'un festival de jeunes journalistes, hein, c'est ça?
Alors vraiment pas.
Donc nous, on peut venir.
Vraiment, vous êtes les bienvenus, et on a envie aussi de cet échange vraiment le plus large possible. Je pense factuellement, les gens qui ont du temps bénévolement pour organiser des choses, et ça prend beaucoup de temps, c'est peut-être des gens qui n'ont pas encore de famille c'est finalement assez pragmatique comme réponse. Mais non, évidemment, on n'a pas du tout envie que ce soit réservé à une génération.
Vous prévoyez une deuxième saison? Une deuxième édition
Joker. On verra comment ça se passe, je pense. On a tous très envie et il y a plusieurs organisations aussi qui se sont tournées vers nous, qui espèrent que ça débouche sur quelque chose. C'est notre souhait. Mais je pense qu'on va attendre déjà d'être le 7 juin au soir ou peut-être le 9 juin et puis on fera un bilan et puis on verra où on va.
Merci Pauline Rumpf, journaliste à 20 minutes. Donc vous êtes dans le comité d'organisation du premier Prestival qui aura lieu samedi prochain au stade de la Gourtzellenne à Bienne. Bonne journée à vous, bon week-end.
Merci à vous aussi.
Pixel avec vous, Anouche Setaghia, journaliste au temps spécialisée dans les nouvelles technologies. Ce matin, vous parlez de cybersécurité.
Eh oui, avec une nouvelle importante, hein, Karine, les mots de passe, eh bien, c'est fini. Microsoft a pris cette décision il y a quelques jours. Si vous créez un nouveau compte chez lui, eh bien, par exemple pour créer une adresse email, eh bien, aucun mot de passe ne vous sera demandé. À la place, Microsoft vous proposera d'utiliser une clé d'accès ou alors passkey en anglais. L'idée, c'est d'utiliser la biométrie pour accéder à vos comptes en ligne. Vous n'avez donc plus besoin de retenir un mot de passe. Alors, ça fait des années que tous les géants de la tech tentent de nous faire adopter des clés d'accès. Mais cette fois, Microsoft franchit un pas important en ne proposant plus du tout de créer un mot de passe.
Alors, vous allez peut-être nous rappeler comment fonctionnent ces clés d'accès ?
Oui, absolument. Ça semble compliqué, mais en réalité, c'est tout simple. Alors, prenez votre téléphone, Karine, ou votre ordinateur pour le déverrouiller. J'imagine que vous utilisez très certainement soit la reconnaissance de votre visage, soit
Face ID,
vos empreintes digitales. Exactement. C'est un moyen hyper sécurisé pour s'identifier. Eh bien, les clés d'accès fonctionnent sur cette base. Une clé est stockée dans le service en ligne que vous utilisez et une autre clé est enregistrée sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et ensuite, eh bien, les deux clés communiquent entre elles. En ayant ces appareils sous la main, eh bien, vous avez accès à tous les services qui sont compatibles avec ces passkeys.
Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus sûr que les mots de passe ?
Eh bien oui, totalement. Hein. D'abord, votre mot de passe risque d'être deviné par des pirates informatiques. Mais surtout, avouez-le, Karine, oui. Vous avez certainement tendance à utiliser parfois eh bien, le même mot de passe pour plusieurs
non,
services.
Alors pas du tout.
C'est vrai ?
Pas du tout.
J'ai un tout petit peu peine à vous croire. Parce que si vous le faites, et je pense que c'est le cas, eh bien, si l'un de vos comptes se fait pirater, eh bien, tous les autres risquent de subir le même sort. Donc attention à ceci. Alors Microsoft assure qu'utiliser une clé d'accès permet de se connecter 8 fois plus vite à son compte qu'avec un mot de passe. Et en plus avec un taux de succès quasi total. Voilà,
ouais,
bon, que du bonheur.
Est-ce qu'il faut vraiment croire Microsoft ?
Eh bien sur ce coup, oui. Hein, Google, Microsoft, Apple ou Facebook défendent tous depuis des années ces fameuses clés d'accès. Mais ces géants de la tech n'ont pas d'agenda caché là derrière, ils veulent juste que leur service soit toujours massivement utilisé. Alors personnellement, j'utilise des clés d'accès depuis des mois pour plusieurs services. Alors une fois que c'est installé, bien oui, promis Karine, ça vous facilite la vie. Aucune tromperie sur la marchandise, croyez-moi.
Je vous crois, ça y est, c'est bon, je vous crois. Mais qu'est-ce que vous me conseillez de faire maintenant ?
Oui, on va entrer effectivement dans l'ultra concret. Alors je vous conseille d'abord d'aller dans les paramètres de tous vos comptes, hein, LinkedIn, iCloud, Gmail ou encore Samsung. Sous l'onglet sécurité, eh bien activez les clés d'accès. Ou donc passkeys.
Attendez, je fais ça en direct. Hein.
Voilà,
je le
voilà,
fais.
Quelques oui. clics comme ça, on y arrive. Attention Karine, je vous promets, mais attention, je ne vais pas vous vendre du rêve. D'abord, aller trifouiller dans ces fameux réglages prend parfois un petit peu de temps. Et puis ensuite, hein, ces passkeys ne sont pas universels. Alors tous les géants de la tech, hein, je l'ai dit auparavant, les proposent, Google, Amazon et compagnie. Mais il y a encore beaucoup de sites web ou d'applications qui demandent encore ces fameux mots de passe. Eh bien, dans ce cas, un dernier conseil, enregistrez ces mots de passe via un gestionnaire de mots de passe, justement, et vous accéderez à ce petit outil via une clé d'accès qui vous protégera. Je vous vois dépérir devant moi. Non, effectivement, j'avoue, il y a quand même quelques étapes à franchir. La cybersécurité, ce n'est pas toujours facile. Mais oui, ça vaut vraiment, vraiment la peine d'y consacrer du temps ce week-end, par exemple. Faites-le, allez dans les réglages, allez activer ces clés d'accès et vous verrez, vous serez beaucoup plus sûr en ligne.
Merci
c'est
beaucoup,
promis.
Anouche Setaghia. Oui, c'est promis. Et comme vous le savez, je fais toujours ce que je promets.
Très, très bien. On en reparle dans une semaine.
Bon week-end.
But you're making a scene. Ooh, put me on a pedestal that nobody asked for. But then you knocked me down like it was a I'm
Rain on my parade, c'était Roxane, elle est suissesse, et Roxane s'écrit avec un X, un A, un N et un E.
Vous nous la refaites avant, au micro, vous l'avez déjà chantée.
Non, je vais pas. On y va, on va à Genève. Avec Mélanie Chapuis qui nous accueille dans le quartier des Acacias à Genève, donc je l'ai dit, un pavillon qui s'appelle le pavillon Cycli.
Oui, dans le quartier des Acacias, un quartier qui est en pleine mutation, en friche, en construction, qui a notamment pour objectif de mettre en avant le paysage et le vivant entre les immeubles et le béton. C'est ici que se tient l'exposition « Devenir jardinier planétaire, la préséance du vivant ». Une exposition qui voyage, comme les plantes, qui change, comme le climat, en fonction de ses lieux d'accueil. L'exposition itinérante a été imaginée par le botaniste, entomologiste et écrivain Gilles Clément. Elle s'ancre ici à Genève grâce à la collaboration du Centre Nature et Environnement de Lullier, de l'EPIA et de l'association Topos. Et je suis donc avec Nina Guyot. Bonjour Nina.
Bonjour.
Vous êtes architecte et membre de la commission de programmation de la Fondation Pavillon Cycli. Avec vous, on va parler défis climatiques, renaturation urbaine et jardin du futur. Mais commençons peut-être par le titre de votre exposition. Ça signifie quoi, devenir jardinière planétaire ?
Devenir jardinier ou jardinière planétaire, ça veut dire considérer la Terre comme un jardin et en devenir jardinier. Ça fait référence au jardin planétaire, c'est-à-dire considérer la Terre comme un jardin, comme un enclos dans lequel on cultive le meilleur. Cette Terre, elle est en étant des jardiniers et jardinières, on en est responsable, on doit en prendre soin. L'idée, c'est de faire avec plutôt que d'exploiter ses ressources. Et donc, c'est une sorte de changement de paradigme avec lequel la planète, elle n'est pas seulement à disposition, mais elle est un bien qu'on doit respecter et dont on doit prendre soin.
Alors, en arrivant ici, je m'attendais à me trouver dans une sorte de serre avec plein de plantes. Et puis, en fait, c'est des trampolines qui m'accueillent, des trampolines recyclées qui nous attendent dans le pavillon, ainsi que aussi des photos qui sont magnifiques, des photos de nature et des textes. Par exemple, sur cette toile tendue devant laquelle on se trouve, là, on nous parle, donc sur un trampoline, on nous parle du rôle des femmes. On en a déjà pas mal parlé, mais le rôle des femmes dans la préservation du lien avec le vivant. C'est quoi tous ces trampolines? Il y en a quoi, une vingtaine?
Oui, il y a une vingtaine de trampolines. C'était un choix des commissaires d'exposition de mettre tout ce qui appartient au vivant sur le parvis du pavillon. Donc toutes les plantes sont à l'extérieur pour aussi faire un lien avec le reste du quartier, activer un espace public et dédier l'intérieur de l'exposition plutôt à tous les aspects théoriques et conceptuels pour mieux comprendre justement ce que ça veut dire la présence du vivant. Donc on a une vingtaine de trampolines avec des infographies très complètes sur le vivant, la Terre, son état en ce moment. Et après, aussi une vingtaine de projets qui expliquent ou montrent comment on peut appliquer le principe de jardinier planétaire en termes de projet.
On a notamment une infographie qui nous rappelle que l'eau douce ne représente que 1,2% de l'eau totale sur la planète. Quels sont les enjeux liés à l'eau ces prochaines années, par exemple ?
Oui, alors effectivement, c'est des gros enjeux et l'eau, c'est aussi un des premiers signaux du réchauffement climatique. C'est quelque chose qu'on voit assez facilement. C'est des catastrophes qui sont vite importantes. Moi, je suis pas biologiste, mais ce que j'ai pu apprendre dans cette exposition, c'est aussi qu'elle a une importance indéniable en termes de cohabitation de différentes espèces. Mmh. Elle permet à des milieux variés de cohabiter et du coup, à avoir une présence du vivant qui est beaucoup plus diversifiée. Ce qu'on voit aussi dans le passé, c'est qu'on a souvent essayé de la contraindre, de l'effacer en enterrant plusieurs rivières, par exemple.
Ici, à Genève, la Drise, dont on va parler peut-être un peu plus tard, la Drise qui est carrément sous la route des jeunes à Genève et qui est en train, que vous voulez faire ressortir à la surface. Donc on se réjouit, ça va être joli, ça prend du temps. Mais on peut aussi, donc ça c'est pour rafraîchir un peu les villes, c'est ça ?
Oui, exactement. Je pense que, bien sûr, c'est une question de chaleur dans les villes, c'est aussi une question de biodiversité pour avoir des écosystèmes qui sont beaucoup plus riches. C'est aussi une question urbaine, dans le cas de la Drise notamment, c'est un axe qui va être public, qui va être très fort et qui va permettre de relier les différents futurs quartiers du Pav entre eux, qui ouvrent des imaginaires de comment on peut l'habiter. C'est des choses qu'on ne connaît pas encore forcément, en tout cas à Genève, et qui vont être très riches aussi en termes d'usage.
Mélanie Chapuis, nous on est à Lausanne, on est quand même très intriguée par les trampolines. Sandra Timmerlis.
Je suis complètement bloquée sur les trampolines.
On est bloqué sur les trampolines, la Drise, tout ça.
J'ai demandé à Nina si on pouvait sauter dessus, si jamais il y avait des enfants.
Mais ils sont quoi ces trampolines ?
Ils sont vraiment pour recycler. C'est pour recycler, donc c'est des vraies trampolines.
Ah,
c'est
ils sont là pour recycler.
C'est une expo entièrement recyclable. Donc vous avez pris ces trampolines de je sais plus où, c'est ça ? Et après vous les rendez à...
Oui, exact. On les a récupérés un peu partout où on trouvait. Donc c'est pas une source unique. Et on va les rendre après. Ils sont recouverts par des bâches sur lesquelles sont les infographies, qui sont souvent rondes. Donc c'était important d'avoir un support rond. On voulait pas utiliser de nouveaux matériaux pour ça. Et l'idée du trampoline est venue un peu comme ça, mais elle fonctionnait très bien pour ce type d'affichage.
Donc pour les auditeurs et les auditrices, c'est important de le préciser, voilà, on va visiter le pavillon, non pas pour sauter sur des trampolines, mais pour, vous l'avez dit tout à l'heure, Mélanie Chapuis, apprendre à être un jardinier, de s'occuper de la terre hein, comme un jardin. Mais c'est pas ce qu'on fait finalement tous en s'occupant de nos jardins, c'est de prendre soin de la terre ?
Oui, bien sûr, mais je pense que ce qu'on voit, c'est que pendant un très grand nombre d'années, on a essayé de contraindre les jardins en faisant des environnements qui devaient avant tout être beaux, qui changeaient très peu. Et les idées qui ont été développées par Gilles Clément et l'atelier Coloco, c'est de dire que la nature a aussi une place dans la manière dont elle se forme, qu'elle évolue, qu'elle se transforme. Et nous, on doit travailler avec, plutôt en réaction aux mouvements qui sont naturels, pour laisser plus de place à l'autre, que ce soit la faune, la flore, les insectes, etc.
Donc ne pas trop intervenir. Gilles Clément, il a cette phrase, si vous faites rien, il poussera une forêt. Mais je voulais revenir sur la Drise. Donc super, on sort, on revoit la rivière, etc. Enfin pas tout de suite, mais dans quelques années. On parle aussi du moustique tigre. Il y en a certains qui sont complètement parano par rapport aux guêpes, aux abeilles, aux frelons. Est-ce que ça peut devenir inquiétant de renaturer les villes ?
Non, je ne pense pas du tout que ce soit inquiétant. Il y a beaucoup d'experts et expertes qui travaillent dessus. C'est vrai que dans les villes, on vit dans des milieux qui sont très protégés, mais ça ne va pas changer radicalement du jour au lendemain. Ça va être une adaptation sur le temps et... Les avantages, c'est que ça permettra d'avoir une biodiversité beaucoup plus riche, qui sera bénéfique à tout le monde, et aussi d'avoir plus d'îlots de verdure, de rivières qui amènent de la fraîcheur, qui amènent des nouveaux usages. Donc, d'après moi, c'est plutôt bénéfique.
Sandra Timmerlis, il y a une question pour vous.
Moi, j'ai toujours rien compris. Pardon beaucoup, mais je suis très lente. Hein, mais j'ai quand même passé le stade des trampolines, donc j'en suis à la rivière. Mais elle passe dans le musée, la rivière. On la voit où ? On la voit comment ? C'est des photos ? C'est une représentation ?
Non, on est dans un quartier qui est en friche, aux Acacias. Et puis, un des projets qui va un peu avec l'expo, dont on parle dans l'expo, parce on parle de projets qui sont planétaires, et on parle de projets plus locaux, mais qui contribuent aussi à relever les défis du changement climatique. Et donc, l'idée, c'est notamment de faire ressortir la Drise de sous terre, parce qu'actuellement, la Drise, qui est donc une rivière genevoise, elle est sous la route des jeunes. Qui est une route genevoise. Et donc, elle est sous la route des jeunes. Il y a aussi ce projet avec l'air. Et il y a des projets comme ça un peu partout en Suisse. Mais là, effectivement, on se concentre sur Genève et sur d'autres projets en France, un peu partout.
Un musée à ciel ouvert, en fait, en quelque sorte.
Ouais. Oui, l'idée de l'exposition, c'était vraiment de réussir de faire des liens avec ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, comme on est au centre de ce quartier en mutation, la Drise, elle va passer juste à côté du pavillon. Donc, depuis les fenêtres du pavillon, on voit tout le chantier. Et ça permet d'avoir un exemple direct d'un projet de renaturation juste à côté de l'exposition.
On sait que les jardins sont toujours en mouvement. La nature repousse jamais telle qu'elle l'année suivante. Elle se déplace. À ça s'ajoute qu'on réfléchit à des jardins du futur ici dans cette exposition, sans savoir vraiment de quoi le futur sera fait. Hein, tout à coup, on peut se prendre un glacier sur nos toits. Donc, à quelle vitesse, et sans savoir non plus à quelle vitesse va se réchauffer le climat, on doit quand même agir actuellement. Et est-ce qu'on commence enfin à agir plus ou moins bien?
Oui, je pense que oui, il faut absolument agir. C'est aussi ce que dit cette exposition, c'est simplement une manière d'agir différemment, d'agir en prenant en considération l'ensemble du vivant, de manière sensible, de comprendre l'environnement. Et une fois qu'on fait ce changement de paradigme, puisqu'il y a une forme de respect dans tout travail, ça permet aussi de changer la direction du climat. Et évidemment, on va pas pouvoir rattraper ce qui a déjà été fait. Mm-hmm. Par contre, à partir de maintenant, je pense qu'on peut agir différemment et c'est ça l'idée.
Nina, vous êtes architecte, mais vous répondez à nos questions sur les rivières parce que vous travaillez, vous me disiez que c'était super important actuellement de vraiment mélanger les disciplines et travailler main dans la main. Alors comme vous avez répondu à mes questions sur les rivières, je vais quand même vous poser une question plus architecturale. Le béton, c'est vraiment pas idéal comme matière parce que c'est pas transformable. À quoi vont ressembler nos villes du futur en termes de maisons, de bâtiments?
Oui, effectivement, le béton et tous les matériaux, ça pose beaucoup de questions aujourd'hui. Pour moi, plus qu'une question simplement de béton, parce qu'il est encore très utilisé, et parfois c'est une réponse qui peut être juste, j'ai l'impression que les bâtiments du futur, c'est plutôt une question de résilience, de voir comment ils peuvent aujourd'hui répondre à des enjeux climatiques qu'on connaît aujourd'hui, des usages qu'on connaît aujourd'hui, mais dans le temps, être capable de se transformer et de s'adapter à des nouvelles conditions qu'on connaît peut-être pas forcément encore. Et ça appelle des matériaux qui ont la capacité d'être modifiés, de démonter une partie, de la remonter, de faire de la réutilisation aussi. Donc plutôt des matériaux, par exemple le bois, suivant les assemblages, on peut facilement le réutiliser ailleurs ou modifier le projet.
Merci Nina Guyot. Je rappelle que vous êtes architecte et membre de la commission de programmation de la Fondation Pavillon Cycli. Mélanie Chapuis, on pourra donc assister à une visite guidée, c'est ça, de l'exposition?
Oui, c'est important. C'est important parce que vous l'avez compris, l'exposition est très dense. Oui. Donc venez pour les professionnels, vous pouvez la voir tout seul. Pour ceux qui sont un peu avertis aussi, et sinon, ça vaut vraiment la peine de profiter des visites guidées. Aujourd'hui, c'est de 17 à 18 heures avec Nina, et on va faire un tour des trampolines et puis aussi dehors. Il y a plein de plantes, donc pour ceux qui préfèrent voir des plantes, ce que je comprends aussi, c'est plus simple. On peut voir, il y a plein de bacs faits par les élèves de l'EPIA et du centre de jardinage de Lullier, avec en fait chaque bac nous montre un climat et les plantes qui poussent dans ce climat, et donc on peut prévoir à quoi ressemblera la végétation ici dans une trentaine d'années ou dans une centaine d'années ou dans j'en sais rien, on verra bien.
Merci beaucoup. Merci à vous.
On espère.
On fait quoi ce week-end? Donc on va à Genève, proposition de Mélanie Chapuis. On a le temps de mettre un peu de musique? Ah, qu'est-ce qu'on... Samuel Morier-Genoux hésite.
Il grimace. Ouais. Il grimace beaucoup.
Qu'est-ce
là.
Qu'est-ce qu'on fait? Bon.
On a déjà fait. Qu'est-ce qu'on fait?
On part sur la route, bien sûr. On y va.
Infotrafic RTS.
La circulation s'écoule sans encombre sur l'ensemble du réseau routier roman. Pour tout complément d'information, le site rts.ch/trafic est à votre disposition.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
J'aime bien parce que quand je fais l'inforoute, Samuel Morier-Genoux le dit en même temps que moi.
On aurait pu remettre c'est un peu de fanfare sinon.
Ah mais oui, la fanfare d'Armitresse. Bah, merci en tout cas d'avoir été là ce matin.
Merci à vous.
Sandra Timerny pour la revue de presse, Benoît Cornu, l'invité média, Anouche Setaga est déjà partie sur la route. Et on vous retrouve la semaine prochaine, 6h-9h le samedi, donc à partir de 6h. Samuel Morier-Genoux était à la technique aujourd'hui pour la réalisation. Mathieu Ramzaouer m'a aidé également à préparer cette émission. Audrey Zano est notre attaché de production. Et Stéphanie Jovanovic a préparé les musiques de cette matinale et de la journée.
L'heure avec RTS Première.
Et il est 9h. Bonne matinée à vous, les informations.